La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Plus de la moitié de la population est aujourd'hui bilingue, voire multilingue. Outre le fait de pouvoir communiquer avec des gens partout dans le monde, les études scientifiques montrent aussi que le bilinguisme est bon pour le cerveau. Les enfants parlant deux langues développeraient des capacités cognitives plus importantes. Le bilinguisme permettrait aussi aux enfants d'être plus attentifs et concentrés. Il faciliterait l'adaptation et retarderait même l'apparition de maladies mentales. C'est le dossier dans un instant de La Tête au Carré. L'émission étant enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science, aujourd'hui, les résultats d'une étude sur la chaleur étouffante dans les villes en été.
Oui, Mathieu, avec une solution pour plus de fraîcheur dans les centres-villes favorisant la construction en désordre. Une étude originale menée par le CNRS et le MIT dont on discute avec le physicien Roland Pellinck.
Et c'est Étienne Bertin qui réalise aujourd'hui cette tête au carré, préparée par Lucie Sarfati avec Pierre de Certaine et Anna Massardier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, l'enfant bilingue. Ce sera donc le dossier de l'émission dans quelques instants avec mon invité, donc la psycholinguiste Ranka Bibeljak-Babik. Bonjour à vous.
Bonjour.
Est-ce que être bilingue, c'est vraiment meilleur pour le cerveau et pour la construction de l'enfant?
En tout cas, pour dire en quelques mots, c'est pas mauvais, ni néfaste, ni handicapant pour le développement cognitif, mental et scolaire des enfants.
Et c'est plutôt mieux que meilleur d'ailleurs. Beaucoup d'études, on le verra, étudient justement le bilinguisme comme vous d'ailleurs. On va en discuter avec les auditeurs et les messages. Beaucoup de témoignages aussi peut-être pour vous dans quelques instants. Avec donc l'adresse pour nous rejoindre, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Comment lutter contre l'accumulation de chaleur dans les grandes villes américaines et européennes? Une étude originale, aujourd'hui à la une de la science, menée par des physiciens des matériaux. Elle explique enfin le phénomène des îlots de chaleur urbaine qui fait grimper parfois le thermomètre de plus de 6 degrés dans les grandes villes. Pour en parler, nous partons au MIT à Boston, Axel Villard.
Oui Mathieu, nous sommes au téléphone avec Roland Pellinck. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien des matériaux, directeur du laboratoire de recherche mixte CNRS-MIT. Alors, ce qui est intéressant avec vos travaux, c'est que vous n'êtes pas du tout urbaniste ni même climatologue, mais physicien. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à la chaleur dans les villes?
Écoutez, c'est en fait, on est parti d'une, on va dire, de promenade, de, on va dire, dans la cour du MIT avec un collègue, Franz Ulm, et en fait, en regardant la skyline de Boston, de l'autre côté de la rivière, parce que nous sommes à Cambridge, on regardait Boston, et on s'était dit que les bâtiments posés comme ça dans la ville ressemblaient furieusement à une phase d'atomes absorbés sur une surface. Et d'où est venue l'idée d'utiliser les méthodes de physiciens pour quantifier la façon dont ces molécules bâtiments s'absorbent sur cette surface qu'on appelle ville.
Mmh. Donc voilà. Vous assimilez les bâtiments à des atomes et tout devient plus simple alors?
Ben oui, enfin, parce que du coup on peut mettre en œuvre des méthodes que l'on utilise par ailleurs pour quantifier la matière solide de la matière liquide. Nous, physiciens, on va faire des expériences de neutrons, on va mettre des neutrons sur la matière et la réponse nous donne des informations statistiques sur l'organisation des atomes. Alors pour les villes, c'est très simple, on n'a pas besoin de mettre des neutrons sur la ville, bien entendu, on regarde Google Maps et on peut rapatrier la position de tous les bâtiments d'une ville et faire des études statistiques sur l'ordre local ou le désordre local de la ville. Par exemple, Boston est une ville historique américaine qui a un signal évidemment européen, de liquide, donc si vous voulez, ou de verre. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, une ville comme Chicago, elle est bâtie sur un réseau carré et donc a un signal plus cristallin.
Alors du coup, si on remonte à l'échelle des villes, ça veut dire quoi? Quelles sont les villes qui sont les plus intéressantes et donc les plus chaudes?
Alors en fait, ce qu'on a montré là, c'est que la chaleur dans les villes s'évacue moins bien en fait dans les villes dites ordonnées. Alors ordonnées comme Chicago, les villes américaines bâties récemment, on va dire. Les villes plus anciennes, comme Boston une fois, comme Boston je disais, ou encore Londres, ou encore Paris, ce sont des villes où le flux d'air est plus homogène et où la chaleur s'évacue mieux, en fait. Et donc du coup, l'effet de chaleur urbain est moins important dans les villes désordonnées que dans les villes ordonnées.
De combien de degrés ce phénomène d'îlot de chaleur peut faire grimper le thermomètre en été?
Alors écoutez, autant je me rappelle, pour le record aux US, c'est Phoenix, Sodette, de l'ordre de 7 à 10 degrés, donc c'est beaucoup. Wow. D'accord. Typiquement, en moyenne, c'est plutôt de l'ordre de 3-4 degrés entre le cœur de la ville et l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, c'est l'extérieur pas loin. C'est typiquement les températures mesurées, par exemple, à l'aéroport local.
Donc, grosse différence entre l'Amérique et la vieille Europe, Roland Pélinck, dans les exemples que vous avez pu étudier ou pas?
En fait, pour le coup, on n'a pas trop de données européennes. On a plutôt regardé 40 de villes américaines pour des raisons d'accès aux données. Mm-hmm. Il semblerait que les villes désordonnées gardent moins la chaleur. Et cet effet-là, ça dépend où vous êtes. Par exemple, les villes de Floride, par exemple, Miami, en fait, eux dépensent beaucoup d'argent pour la climatisation à cause de la texture urbaine, en fait, de la ville. Et là, vous voyez, ça dépend où on est, en fait.
Comment votre travail et vos mesures vont aider les urbanistes à travailler? Ils vont pas pousser les bâtiments?
On va pas démonter Paris, non, rassurez-vous. Ça, c'est évidemment, on peut donner des indications au maire de Phoenix s'il veut agrandir sa ville en lui disant, vous devriez plutôt localement bâtir avec du désordre. Mmh. Ça gérera mieux la chaleur. Et côté existant, en fait, la seule façon de faire, là, on tombe dans la physique des matériaux, par exemple, comprendre le transport de la chaleur dans le béton, dans les verres, dans les aciers, etc., pour en fait que les bâtiments fuient moins l'énergie, gardent mieux l'énergie. Mmh. Donc toutes les procédures de réhabilitation sont effectivement du coup le cœur du problème quand il s'agit de l'existant.
Mais est-ce que les urbanistes ou les architectes, Roland Pélinck, ont l'habitude de travailler avec les physiciens sur ces questions d'atomes? Vous parliez de texture tout à l'heure et donc d'organisation, oui, des atomes. Ça paraît quand même bien loin de l'architecture habituelle, non?
Carrément, je pense que là pour le coup, alors... c'est un domaine nouveau. On a fait 3 ateliers, 3 workshops un peu partout, ici à Boston, et puis à Paris, et puis à Washington. Donc il y a une communauté de gens de la physique, et en général la physique théorique, qui commence à regarder la ville comme un objet d'étude de physiciens. Alors aussi bien pour la texture des villes, ça c'est un peu notre travail, mais aussi pour le transport, pour aussi le côté social, les gens font des modèles pour expliquer les comportements sociologiques des gens dans les villes. Donc tout ça, en fait, c'est un peu neuf. Et c'est vraiment de la physique par analogie, c'est-à-dire qu'on applique des méthodes développées pour d'autres domaines, les atomes par exemple, on applique ça aux villes par exemple, et donc ça permet d'avoir des informations statistiques plus pertinentes, parce que mieux mesurées par des méthodes de physiciens.
Est-ce qu'il y a des cas où cette construction rectiligne alignée est intéressante?
Oui, alors je vous disais, pour garder la chaleur, c'est au fin fond du nord du Canada, c'est pas intéressant pour garder la chaleur, mais il est évident aussi que d'un point de vue de réseau, il est plus facile d'imaginer un réseau électrique, d'accord, carré et bien et facilement distribué, qu'un réseau désordonné. Donc de ce point de vue-là, évidemment que le réseau simple, je vais dire ordonné, est un avantage. Ceci dit, ça milite aussi pour avoir des bâtiments qui soient autonomes en énergie.
Merci Roland Pélinck, vous êtes physicien des matériaux, directeur donc du laboratoire de physique mixte CNRS MIT, et vous nous parliez donc de chaleur des villes et de réchauffement climatique depuis la neige de Boston où vous êtes en ce moment.
Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous et Axel, à demain.
À demain.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, notre goût croissant pour la crevette n'est pas une bonne nouvelle pour le changement climatique. Les climatologues rapportent dans Nature Climate Change que pour seulement 6% de tonnage, la pêche à la crevette et au homard représente 22% des émissions de CO2. La demande croissante de ces crustacés et les techniques de pêche lente seraient en cause, entraînant une importante consommation de diesel. L'étude précise qu'il reste heureusement la pêche à la sardine, au hareng et aux anchois pour consommer du poisson tout en respectant l'environnement. Le nez de l'homme de Néandertal lui servait à lutter contre le froid, une étude qui vient de paraître. Détaille son nez saillant et ses larges sinus. Cet appendice nasal lui aurait permis d'humidifier plus efficacement l'air sec et froid. Selon l'étude, l'évolution particulière de la morphologie faciale des Néandertaliens provient en partie de leur adaptation au froid. En hiver, ils consommaient en effet près de 4400 calories par jour contre 2500 chez Homo sapiens. Grâce à ses fosses nasales, il inhalait ainsi une grande quantité d'air pour s'oxygéner, brûler les graisses et produire l'énergie nécessaire pour survivre à la saison hivernale. Et puis toujours autour du froid, des bains chauds qui font chuter le stress chez les singes des neiges. Une équipe de primatologues de l'université de Kyoto s'est penchée sur la spathérapie de ces macaques japonais. Dès 1963, une femelle macaque avait été observée en train de prendre un bain chaud dans une piscine d'hôtel située à côté d'un parc à singes. La source chaude aurait pour effet de réduire le rythme cardiaque et le stress chez ce primate. Et ce sont les femelles dominantes qui en profitent le plus en raison des efforts qu'elles fournissent. Pour les primatologues japonais, ce comportement est une preuve indéniable et fascinante de survie et d'adaptation face au froid. Allez, dans un instant, notre dossier sur le bilinguisme, mais avant cela, journée spéciale aujourd'hui autour du nouvel album de Françoise Hardy. Cet album s'appelle Personne d'autre, France Inter est partenaire, il va sortir demain vendredi et en extrait, Train spécial.
musculaire, malmenée trop souvent par des courants, des vents contraires. Il me reste peu de temps pour prendre avec toi le train spécial qui va nous emporter loin du désordre, des peines capitales, vers la lumière et la liberté. Laissons de côté nos logiciels pour mieux tourner la page, lever les yeux, revoir le ciel et toucher les nuages. Monte avec moi dans le train spécial, il n'arrive qu'une fois. Destination intersidérale, tenons-nous près des pas immédiats. Avec moi dans le train spécial, c'est de première urgence, car l'amour seul peut ouvrir le bal et nous accorder une dernière danse. Rien ne s'achève, mais tout commence. Lâcher prise générale, de rêve, mystère, présence sous une pluie d'étoiles. Monte avec moi dans le train spécial de l'aller sans retour. Demi-tour, monte avec moi dans le train spécial, c'est de première urgence, car l'amour seul peut ouvrir le bal et nous accorder une dernière danse. Monte avec moi dans le train spécial de l'aller sans retour.
Voilà, c'était Train spécial en exclusivité, extrait du nouvel album de Françoise Hardy. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site franceinter.fr une playlist concoctée par Françoise Hardy elle-même qui parle de ses chansons préférées du moment. Et vous pouvez découvrir demain son nouvel album qui sortira dans les bacs.
La tête au carré sur France Inter.
Puisque le bilinguisme est devenu pratiquement une obligation de l'âge adulte, autant commencer le plus tôt possible. C'est ce qu'on a pensé dans deux écoles maternelles bordelaises où une expérience d'enseignement bilingue a été tentée.
En somme, nous leur apprenons une seconde langue maternelle.
En quelques mois, à raison d'une heure par jour, cette méthode semble avoir donné d'excellents résultats.
Yes. Now, you wash the hands. What are you doing?
I am washing.
The? Yes, what is Corinne doing?
Et tous ces bambins s'expriment maintenant dans la langue de Shakespeare avec un charmant accent bordelais.
What are you holding? I am holding a ring.
Yes, what is Jill holding? Yes, and now you cut the line, cut the line. Say it. I
cut the line in the water.
Yes.
Et bien entendu, on connaît déjà ces classiques. N'en doutons pas, c'est à 3 ans qu'il faut apprendre les langues étrangères.
Voilà, apprendre l'anglais avec ce charmant accent bordelais, c'était en 1966 et depuis, les études ont fait beaucoup de progrès pour parler de l'enfant bilingue avec ce livre d'abord, qui est publié chez Odile Jacob et que vous avez écrit, Ranka Bijeljak-Babi, qui vous êtes notre invité donc cet après-midi. Vous êtes psycholinguiste, maître de conférences à l'Université de Poitiers et membre du laboratoire de psychologie de la perception au sein de Paris Descartes et vous êtes également vice-présidente de l'association Café Bilingue. Alors, 3 ans, c'est un bon âge pour commencer une langue quand on n'est pas juste déjà baigné naturellement dans deux cultures.
Oui, c'est tout à fait un bon âge. Et puis, l'exemple que vous avez montré, il est tout à fait intéressant. La seule remarque que je ferais, c'est que le bilinguisme, comme dans cet exemple, il est accepté, stimulé, valorisé quand c'est avec l'anglais. Donc, on ouvre beaucoup de structures pour les jeunes enfants pour apprendre la seconde langue qui est l'anglais. Mmh. Alors que, pour moi, le bilinguisme, c'est avec toutes les langues et c'est toutes les langues et tous les bilinguismes qu'il faut valoriser.
C'est ça.
Pour des différentes raisons, on peut en discuter.
C'est ça. Vous militez évidemment pour l'ouverture à toutes les langues, évidemment. Hein.
Oui, je milite parce que je pense que, ça, les données nous disent que finalement, tout bilinguisme, s'il est bénéfique et qui donne des avantages, il ne concerne pas seulement le bilinguisme avec les langues internationales. Donc, c'est aussi pour un peu valoriser, stimuler les parents qui sont déjà dans cette situation de maintenir, si possible, les deux langues parce que c'est toujours un avantage.
Ouais. Alors, Ranka Bijeljak, dites-nous d'abord quelles sont les études que vous menez, les recherches sur les enfants précoces, alors?
Alors, dans notre laboratoire à Paris Descartes, donc dans notre Baby Lab qu'on appelle, on réalise des études sur le bilinguisme, sur l'acquisition du langage, entre autres dans notre équipe Parole, sur l'acquisition du langage et en particulier, pas en particulier, mais parce qu'il y a beaucoup d'enfants bilingues, sur le bilinguisme aussi précoce, c'est-à-dire chez les enfants au niveau perceptive, quelles sont les étapes, quel est le développement et les sensibilités des enfants qui sont dans un milieu bilingue par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on a déjà étudié chez l'enfant monolingue.
Donc vous avez plein d'enfants à disposition dans ce laboratoire?
Nous avons beaucoup d'enfants, nous avons à peu près entre 1500 et 2000 enfants qui passent dans notre laboratoire. Mm-hmm. Nous avons un contrat avec le CNRS, avec la préfecture qui nous envoie les adresses, donc nous envoyons des lettres aux parents et puis ceux qui veulent répondre, ceux qui participent à nos études et nous sommes très reconnaissants et toujours demandeurs.
Bien sûr.
Que les parents acceptent de venir.
Ouais, quel type de profil alors vous recherchez pour ces enfants? Ça commence à partir de quel âge justement ce baby Lab.
Alors, Baby Lab, ça dépend des chercheurs et différentes recherches. Ça commence à peu près vers 5 mois et ça peut aller jusqu'à 3 ans.
Ah oui, déjà 5 mois alors. Vous mettez les enfants au laboratoire et vous les soumettez à un certain nombre
des... Alors, laboratoire, il ne faut pas non plus penser que c'est un endroit très austère. Au contraire, nous avons réussi à créer une ambiance assez conviviale et puis créer juste des petits box pour pouvoir finalement isoler par rapport à ce qui est audition, la situation par rapport au bruit externe, et donc mettre les enfants dans une condition très simple, toujours en présence des parents, pour écouter différents sons et voir quel est leur intérêt pour les différents sons que nous avons choisis par rapport à la question que nous nous posons.
C'est-à-dire qu'à 5 mois, un bébé est déjà capable de discriminer certaines langues?
Alors, non seulement à 5 mois, même plus tôt, et j'ai travaillé pendant longtemps sur la perception du langage chez les enfants, chez les nouveau-nés, et on sait que même à la naissance, les enfants arrive à faire discriminer les langues, leur langue maternelle par rapport à une langue étrangère.
Mais comment c'est possible? C'est-à-dire que dans le ventre de la mère, déjà, il y a une perception auditive des choses?
Absolument. Enfin, à travers aussi un peu avec à travers le liquide amniotique et puis aussi à travers la voix osseuse, l'enfant entend la voix de sa mère. Donc, il entend évidemment pas précisément tous les aspects du langage, mais entend surtout la mélodie. Et il peut la différencier. D'abord, il peut différencier à la naissance la voix de sa mère par rapport à la voix d'une autre femme. Et puis aussi, il peut différencier la langue sur l'aspect prosodique, mélodique des langues.
Il entend la voix de son père aussi, ou pas?
Alors là,
peut-être... Et des autres membres de la famille?
Papi, ça vient, ça va venir.
Ouais. En tout cas, on n'a pas les outils encore pour le savoir exactement aujourd'hui?
On fait des études, on développe les études dans ce domaine. Mm-hmm. Il est évident que c'est pas toujours facile de réaliser des études avec les nouveau-nés par rapport à des enfants plus âgés parce qu'il faut les mettre en condition, il faut qu'ils soient réveillés, puis il faut que les parents acceptent. Ça se passe dans les maternités, mais il y a plusieurs centres dans le monde et en France aussi qui font des études au niveau comportemental, mais aussi avec l'imagerie cérébrale.
Je disais tout à l'heure dans le sommaire que la moitié de la population était à peu près bilingue aujourd'hui. Est-ce que vous êtes à peu près d'accord?
Tout à fait, plus que la moitié. Ouais. Et puis on pense aussi, avec des statistiques différentes des différentes ressources, qu'à peu près 2/3 d'enfants dans le monde naissent dans les familles plurilingue ou dans le contexte multilingue. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous devenir bilingues, mm-hmm. mais ça veut dire qu'ils sont en présence, soit à la maison, soit à maison extérieure, de plusieurs langues. Donc c'est un contexte qui devient moins exceptionnel, ça veut dire le monolinguisme, et unilinguisme devient plus exceptionnel que finalement que le plurilinguisme.
À quel moment on peut considérer justement qu'un enfant est bilingue véritablement? C'est quand il est capable de passer très facilement d'une langue à l'autre?
Alors ça, c'est une très très bonne question, et cette question véritablement bilingue et parfait bilingue, c'est une question qui est difficile à estimer. Je pense que elle n'est pas, c'est pas réel. Il n'y a pas de parfait bilingue. Il y a pas. Les enfants se développent les deux langues en parallèle si c'est possible, mais il est rare, ça existe évidemment, que les deux langues soient présentées de façon équilibrée dans son milieu. Donc il y a toujours à un moment donné une langue qui va dominer l'autre.
C'est pour ça que vous dites qu'il faut aussi prendre beaucoup de distance avec les inquiétudes quant au bilinguisme, parce qu'on n'arrivera jamais à un bilinguisme parfait.
Parfait, hein. Exactement, d'une part, et d'autre part, pour évaluer justement les compétences des enfants, du milieu bilingue, qui quelquefois pose des questions aux enseignants, aux parents. Est-ce qu'ils vont se développer normalement? Est-ce que le petit décalage qu'ils ont au niveau scolaire, au niveau de vocabulaire, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment qui va persévérer, ou est-ce que c'est un passage seulement temporaire par rapport à la situation? C'est important aussi d'évaluer les langues, les deux langues ou plusieurs quand c'est possible, pour ne pas être dans une situation de grande inquiétude, et surtout ne pas se mettre dans la situation d'arrêter une langue qui est présente dans la famille et qui fait partie du milieu de l'enfant.
Le bilinguisme parfait, ça n'est pas non plus un bilinguisme où l'accent serait totalement effacé, hein.
Oh oui, ça c'est vraiment, ça c'est une question tout à fait intéressante qui m'intéresse en particulier, évidemment, parce que j'ai un accent malgré tant d'années passées.
Alors accent serbo-croate,
hein. Oui, accent, enfin je sais pas, quelquefois on dit que c'est pas vraiment l'accent slave, mais c'est un accent que l'on entend très facilement, et après quelques mots on entend l'accent étranger.
Et pourtant vous parlez parfaitement le français.
J'ai fait des efforts. Enfin, mais ce qui, ça c'est intéressant, parce qu'on sait pas exactement à quoi ça correspond complètement. On sait aussi que c'est justement parce que l'enfant est très sensible et très précocement à cette mélodie de la langue. C'est peut-être ces aspects de la langue qui s'impriment premièrement, et puis ensuite au niveau de la production, pour pouvoir à chaque moment dans les deux langues, sans que l'autre langue n'influence pas, pouvoir positionner la langue, trouver la fluidité, trouver exactement les mots, les sons, les catégories de sons, ce n'est pas toujours facile.
Et le cerveau s'en charge pour nous, au fond, non?
Il se charge très très bien. Même, vous savez, les interprètes, les plus perfectionnés, enfin, qui travaillent en permanence entre les deux langues et qui font l'interprétariat, mais ils ont quand même une langue qui domine l'autre, donc ils ont aussi une préférence, parce qu'on ne peut pas garder les deux langues séparément, parce qu'elles ne sont pas séparées dans notre cerveau. Mmh. Elles s'influencent mutuellement. Et maintenant que je vous parle en français, je dois mettre ma langue maternelle. Et finalement, par certains moments, évidemment, elle se met en avant, elle perturbe en quelque sorte mon français. Oui.
Et vos enfants, Ranka Bijeljak, alors, parce qu'ils parlent plus de deux langues?
Enfin, elles ont appris, enfin j'ai deux grandes filles maintenant, elles ont appris le serbo-croate et le français, donc elles sont bilingues, elles ont appris aussi l'anglais ou l'allemand à l'école, donc finalement ça se passe tout à fait normalement, sans dire que c'était toujours facile, parce que pour maintenir un bilinguisme qui est uniquement familial par rapport à un milieu qui est unilingue, qui était le français, c'est un grand effort quand même qu'il faut faire pour que ce bilinguisme puisse se maintenir pendant des années.
Oui.
C'est facile quand les bébés sont là, ça vient spontanément.
C'est ça.
Mais après, quand les enfants acquièrent le français, quand ils viennent de l'école, quand ils parlent la langue de leur savoir, comment maintenir sans couper la communication, sans interdire de parler la langue de l'école à la maison? Donc c'est tout un travail à long terme.
Cécile demande par mail, est-ce qu'on voit une différence de performance générale entre les pays bilingues et les pays principalement monolingues? Alors, en fait, de très très grande généralité, hein, parce que véritablement monolingues...
Enfin, il y en a. Enfin, la France est officiellement un pays monolingue, en dehors des langues des citoyens, plus les langues régionales aussi qui sont... alors, est-ce que... Enfin, je ne sais pas comment répondre à cette question. Est-ce que globalement, c'est positif, mais individuellement, ça l'est. Alors, quand c'est bien vu, quand le bilinguisme se développe de façon harmonieuse...
Ben, c'est ce qu'on va voir avec vous dans un instant, justement, au niveau de l'individu, et puis à l'appui, justement, des études scientifiques qui, pour le coup, sont assez précises de différencier, justement, les bilingues des monolingues. Vous êtes notre invité, Ranka Bijeljak, avec les messages des auditeurs sur franceinter.fr.
laquelle tu t'installes. Nous nous faisons le bal, nous nous paradons. Soyons les plus, soyons les plus beaux.
Soyons les plus, soyons les plus beaux.
C'est la grève des journées normales, aujourd'hui moins banales. Demain qu'en dira-t-on? Soyons les plus, soyons les plus beaux.
Soyons les plus, soyons les plus beaux.
Nous marchons tout au bord de l'eau, la mer a bon dos. Elle maintient nos regards, elle nous renvoie des mots, elle nous renvoie de l'un vers l'autre. Soyons les plus, soyons les plus beaux.
Soyons les plus, soyons les plus beaux.
Je le sais, chacun de tes gestes abrite un vainqueur. Prête-moi ton châle, que je n'y prenne pas mal, et dénuder ton cou. C'était un stratagème pour l'ouvrir au lard, pour y glisser des dents.
Soyons les plus, soyons les plus beaux. Soyons les plus, soyons les plus beaux.
François MD Atlas Mountains avec Les Plus Beaux sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Ranka Bijeljak Babik, c'est votre livre L'enfant bilingue de la petite enfance à l'école qui est publié aux éditions Odile Jacob et c'est le prétexte de notre dossier cet après-midi. Beaucoup de messages déjà des auditeurs, alors je vous donne cette première missive pour vous de Élise qui demande si parler dans plusieurs langues à son enfant peut retarder l'apparition du langage. Alors là, on rentre vraiment dans les études scientifiques hein, justement qui ont des choses à nous dire très précises sur ces questions. Alors, les inquiétudes.
Il y a toujours des inquiétudes, enfin pas toujours, mais souvent des parents ils ont des inquiétudes. Il n'y a aucune étude qui montre que c'est le retard du langage pourrait être dû au bilinguisme. Ça ne veut pas dire que les enfants bilingues vont rentrer dans les deux langues au même rythme et de la même façon. Donc il est très important donc, de suivre évidemment leur développement. C'est pour ça que j'ai essayé aussi de publier ce livre pour un peu rassurer les parents et puis aussi les mettre en garde et puis pour suivre un peu le développement de ces enfants. Quelquefois, ils parlent très très bien la langue de la maison et les enseignants de l'école ou la maternelle, ils disent ils sont mutiques, ils ne disent pas un mot. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont du retard du langage? Je pense que non. De l'autre côté, quand les enfants, quelquefois, ne parlent pas encore, ne commencent pas à parler à l'âge où on s'attend qu'ils commencent à parler entre 2-3 ans maximum, enfin à peu près à cette période. Quelquefois on dit mais c'est parce qu'il est bilingue donc il va parler plus tard. Et là aussi il faut être quand même un peu vigilant pour savoir est-ce que c'est ça comme raison ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes comme peut-être problèmes d'audition ou d'autres déficits. Donc il faut être un peu vigilant, un peu plus sans de cela faire un problème et sans augmenter une anxiété et des inquiétudes.
Qui sera évidemment transmise à l'enfant en plus, donc rien à gagner de bénéfique, effectivement, si ce n'est observer, effectivement.
Observer, se consulter un peu, et puis aussi stimuler, finalement, comme on fait avec les enfants monolingues, enfin stimuler en parlant, en conversant, et avec d'autres supports, livres, histoires, musique, etc.
Alors, une bonne question d'Élise qui demande, quelle attitude favoriser pour un bon apprentissage de ces langues chez l'enfant ? Faut-il un interlocuteur pour une langue particulière ?
Alors voilà, ça c'était un principe. Comment s'y prendre ? C'était un principe qui était plutôt proposé, enfin qui était suggéré il y a un certain temps, un parent, une langue, parce que l'idée c'était que l'enfant va confondre les langues. S'il entend les parents parler souvent les deux langues, ça va être pour lui un chaos linguistique. Et finalement, on s'est rendu compte que c'est pas du tout le cas, que l'enfant arrive très très bien, même si les parents parle un peu les deux langues, il arrive très très bien à les différencier. Et de l'autre côté, ce principe un parent une langue réduit un peu le contact, parce que souvent, si on est très strict dans cette stratégie ou dans ce principe, les parents ne veulent pas répondre à l'enfant lorsqu'il ne parle pas la langue que lui parle. Donc, du coup, ça peut aussi créer des problèmes de communication. Donc, ce qu'on essaie de proposer, c'est d'essayer de trouver des moments où on parle une langue avec son enfant, et puis d'autres moments où on parle d'autres langues, mais peut-être pas forcément tout mélanger à tout moment.
Alors, ce qui est fascinant, et ce que montrent aussi là maintenant très très bien les études, c'est de voir comment le cerveau d'un petit enfant, très tôt, arrive à comprendre qu'il est face à plusieurs langues en même temps. C'est-à-dire qu'on imagine des parents qui pourraient parler deux langues à la fois, l'enfant va comprendre qu'il s'agit bien de deux langues différentes.
Et ça, c'est tout à fait fascinant, et on sait, on a des études au niveau comportemental, qu'il arrive à vraiment à différencier.
À quoi on le voit, là ?
Alors, par exemple, il y a des études qui montrent, en utilisant la succion non nutritive, qui est donc une façon de mesurer les réactions de l'enfant par rapport aux événements externes. Donc, on peut le conditionner à écouter une langue, et puis ensuite, et à chaque fois quand il tète, on lui présente des phrases dans une langue, et puis ensuite, on lui présente l'autre langue. Et puis, on regarde est-ce qu'il est il augmente sa succion, est-ce qu'il est de nouveau intéressé par les événements ? Et s'il montre ce comportement, cette augmentation de succion, ça veut dire qu'il a montré l'intérêt, donc la différence entre les deux stimulations. Donc on utilise cette technique avec les tout jeunes enfants, et puis d'autres techniques sur la préférence de regard, où on les présente donc dans une pièce, à deux côtés de la pièce, des lumières, et puis chaque fois quand il regarde vers une lumière, il y a une catégorie de sons qui sont projetés. Et puis on regarde, ensuite on fait passer les sons de l'autre côté, et donc on attire son attention, et en le faisant écouter les différents aspects, différentes phrases ou des mots, etc. Et si on voit qu'il écoute plus d'un côté par rapport à l'autre, c'est pour nous, on conclut qu'il comprend la différence, qu'il préfère peut-être un son. Donc, on a différentes techniques qui sont maintenant utilisées dans beaucoup de laboratoires.
Alors, est-ce qu'on a fait des expériences avec des phrases ayant exactement les mêmes tonalités ? C'est-à-dire, on imagine deux phrases dans deux langues différentes, mais avec exactement les mêmes tonalités, pour qu'il n'y ait pas justement l'effet sonore qui joue. Est-ce que l'enfant est capable de comprendre qu'il s'agit là de deux langues ?
Alors, ça dépend aussi justement de l'âge de l'enfant. Quand c'est vraiment des enfants très très jeunes, ils n'ont pas la capacité de distinguer les langues qui appartiennent à une autre classe de langue, qui a d'autres mélodies de la langue. Mais quand ils sont un peu plus âgés, ils arrivent donc à faire la différence entre la langue maternelle et une autre langue. Donc il faut, au début, c'est difficile à l'intérieur d'une même catégorie de langue, et finalement, après, ils arrivent à le faire.
Ranka Bijeljak, on parle de l'enfant donc avec vous, de la petite enfance, mais évidemment, est-ce qu'on peut devenir bilingue à l'âge adulte ? On va en tout cas en avoir une illustration avec la comédienne Ingrid Bergman, qui répondait à cette question en 1980 au micro de Bernard Pivot.
Je parlais français en Amérique parce que j'ai déjà appris anglais, allemand quand j'étais enfant. Et j'ai toujours eu une envie, probablement l'amour pour Jeanne d'Arc, et m'a donné cette envie de parler français. Heureusement, parce que quand j'ai vu M. Rossellini, il ne savait pas anglais. Et comme ça, avec mon français qui n'était pas très bien, mais lui, il parlait très bien le français, ouais. Nous avons pu un peu de conversation.
Enfin, vous parlez quand même si bien le français, c'est que vous avez joué en français des pièces
oui,
au Théâtre de Paris. Vous avez joué Thé et Sympathie. Vous racontez, vous racontez joliment un petit lapsus que vous avez commis un jour, justement,
oui.
Thé et Sympathie. Vous vous rappelez?
Oui, je devais dire, il est le champion de l'école. Au lieu de ça, je disais... Il est le champignon de l'école. C'est, on a des difficultés comme ça.
Oui, mais quelqu'un
même
vous a applaudi.
Anglais.
Mais les gens vous ont applaudi.
Ah oui, ils ont applaudi beaucoup.
Et vous ajoutez
et quand finalement, quand je réussis à dire champion, un très grand applause pour ça aussi.
Voilà, Ingrid Bergman en 1980, Ranka Bijeljak. Alors c'est intéressant, alors au-delà de l'amour pour Jeanne d'Arc, hein, ce qui était son cas, d'apprendre une langue qui n'est pas la sienne à l'âge adulte. Alors est-ce qu'on a les mêmes aptitudes que les enfants et du point de vue de la plasticité cérébrale, est-ce qu'on peut aussi bien apprendre une langue tard?
Alors on a des aptitudes, évidemment, toute personne peut apprendre une seconde langue, il y a tellement des milliers d'exemples dans celui d'Ingrid Bergman, mais c'est possible que finalement cet apprentissage, parce qu'il se fait un peu plus tardivement, ne repose pas peut-être sur les mêmes mécanismes que l'acquisition des langues à l'âge très très précoce. Alors ce qui est intéressant aussi dans son témoignage, d'abord qu'elle dit qu'elle parlait déjà plusieurs langues, donc apprendre une troisième, ça quand même est facilité lorsqu'on est déjà bilingue, et donc aussi que ce côté, les erreurs qu'elle commettait sur la scène étaient souvent aussi bien appréciées, même les petites lapsus qu'elle avait faites.
Ouais.
Donc c'était apprécié. Et de l'autre côté, elle disait aussi qu'il ne fallait pas qu'elle fasse d'erreurs sur le plateau. Mais finalement, parce qu'on est aussi sévère vis-à-vis de soi-même quand on est bilingue, et le milieu n'est pas toujours indulgent. Alors que les monolingues aussi font des erreurs, et les acteurs se trompent aussi. Donc il y a ce côté aussi un peu le regard de l'autre par rapport à nos compétences linguistiques. Et vous savez que aussi des études qui montrent que les personnes adultes qui parlent avec l'accent, et quand ils disent des choses sur la vie ou sur les connaissances, lorsqu'ils ont un accent, ils sont moins crus par les natifs que lorsqu'ils ont pas d'accent. Donc le côté de posséder l'accent, non seulement fait un jugement sur les compétences linguistiques, mais aussi sur les compétences de savoir et de connaissance. Donc ce n'est pas toujours aussi évident, bien que c'est quand même un avantage, n'est-ce pas ?
Médère nous dit sur Facebook, étant d'origine basque, mais ne connaissant pas très bien la langue, j'essaie quand même de parler dans cette langue à mon fils de 15 mois. Cette tentative de transmission de la langue basque, incomplète et donc imparfaite, peut-elle être néfaste au développement de mon enfant ?
Alors, premièrement, il n'est sûrement pas la seule, j'espère, de lui parler le basque, et puis sûrement pas la seule personne qui lui parle. Donc, s'il est en contact avec d'autres locuteurs, il va tout à fait développer normalement son langage. S'il a envie de lui transmettre ce basque qui, pour elle, n'est pas la langue vraiment facile et dominante, c'est un effort, j'imagine, et il faudrait aussi voir à quel point l'enfant va trouver du sens à cet apprentissage. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que l'enfant, quand on essaie de faire des stratégies, des grandes stratégies que les parents ils ont pour l'apprentissage de différentes langues, qu'il faut que ça ait du sens pour l'enfant, qu'il comprenne que ça lui sert aussi à communiquer, pas seulement à avoir des connaissances, des mots ou des apprentissages dans une langue. Parce que la langue véhicule beaucoup plus que le savoir langagier. C'est aussi l'émotion, c'est le contexte, c'est la tradition, c'est la culture qu'il acquiert rapidement, finalement.
D'où, quand même, l'idée d'être dans la bonne maîtrise de la langue qu'on souhaite enseigner à son enfant pour éviter de lui inculquer des erreurs.
D'être dans la spontanéité, parce que vous savez, on peut être aussi parent, être soi-même bilingue. Donc, on n'est pas parfait, comme on avait dit, dans chacune des langues. Et on peut, selon le contexte, vouloir lui transmettre une de ces langues. Donc, on n'est pas parfait. Donc, ça veut dire qu'on va être toujours un peu moins, entre guillemets, bon qu'un monolingue. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il faut se priver de lui transmettre cette langue ?
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion.
Matter of time. people. Wow, just a matter of time. I can't wait no much longer. My frustration's near its end. I can't hate 'cause I'm stronger. It's a matter of time. It's a matter of.
Sharon Jones and the Dap Kings avec Matter of Time.
La tête au carré sur France Inter.
Au début, quand on s'est rencontrés, on se parlait en anglais parce que Katia ne parlait pas portugais et moi, je ne parlais pas russe. Mais comme on a commencé à apprendre la langue de l'autre, on s'est mis à se parler dans nos langues maternelles. Et aujourd'hui, c'est un réflexe. Je lui parle en portugais, elle me répond en russe et c'est comme ça qu'on communique. Et on comprend tout ce que dit l'autre.
Les enfants du couple sont trilingues. Une particularité qui modifie la façon dont fonctionne le cerveau et stimule la flexibilité de la pensée, d'après la chercheuse canadienne Hélène Bialystok, spécialiste de la question. Plus ils arbitrent entre les langues pour s'exprimer, plus ils développent leur capacité à résoudre des problèmes.
Parce que vu qu'on a les parents internationaux, on ne peut pas nous dire « je suis française, je suis russe, je suis portugaise ». On est les trois, voilà.
Et moi, je me sens plus français puisque...
Je me sens plus français parce que je suis née en France et j'ai passé la plupart de mon temps dans des écoles françaises. Je crois que je suis plus français. Je sais que je suis aussi portugais et russe, mais je me sens plus français.
Voilà, reportage qui avait été diffusé sur Euronews sur ces familles trilingues, tout comme la vôtre, Ranka Bijeljak, hein, puisque vos enfants sont trilingues aussi.
Enfin, ils sont surtout bilingues. Et puis là, ils ont une langue internationale qu'ils ont appris à l'école. Oui,
donc, ils arrivent à jongler à peu près avec les langues. Cet ouvrage donc, que vous publiez et qui paraît chez Odile Jacob. Alors, les études, là aussi, sont intéressantes. D'ailleurs, la chercheuse qui est citée dans ce reportage l'est aussi dans votre ouvrage, évidemment, parce qu'elle fait référence dans ce domaine. Sur la richesse du vocabulaire, justement, des enfants, allons plus loin dans les études qui sont menées. Ça fait l'objet des inquiétudes des enseignants.
Oui, ça fait surtout dans la petite enfance ou les enfants, on sait qu'il faut qu'ils aient à un moment donné un vocabulaire, une taille de vocabulaire qui leur permet ensuite de se développer dans le langage, de combiner les mots, de créer des phrases. Et c'est vrai que c'est un signe, si l'enfant n'a pas assez de mots, c'est un signe d'un petit décalage ou peut-être un petit retard. Alors si l'enfant bilingue à l'école, quand c'est parle sa langue maternelle, un vocabulaire qui est moins fourni, les enseignants peuvent s'inquiéter. C'est là où souvent ils disent aux parents, arrêtez votre langue, l'enfant ne pourra pas se développer bien dans la langue de l'école, par exemple le français. Et finalement, Bialystok et d'autres chercheurs ont montré que finalement, vers 5 ans, lorsque l'enfant va déjà à l'école, son vocabulaire quotidien de maison, il peut être inférieur dans la langue de l'école, mais son vocabulaire de l'école, il est de même niveau, au niveau de la taille et de la richesse, donc, que les enfants monolingues. Ouais. Donc, le vocabulaire qu'il va utiliser, finalement, pour les connaissances et pour son développement scolaire, est tout à fait se développe au même moment, de même niveau que les enfants monolingues.
Mais vous rappelez vraiment à quel point c'est important de ne pas chercher une symétrie parfaite entre deux langues, hein, parce qu'évidemment il y aura toujours des différences.
Il y a des différences
de
et puis aussi
quand
c'est la langue un peu plus faible pour l'enfant qui rentre dans l'école de cette langue, il faut aussi lui permettre de donner plus de temps, ne pas toujours le comparer aux enfants monolingues, pour aussi considérer que c'est un processus dynamique. Dynamique, ça veut dire aussi qu'il y aura aussi des montées, puis des descentes. Ça dépend aussi de l'entourage, de la taille, de l'exposition à la langue. Et c'est ça où c'est important que finalement, et l'école et les parents supportent et suivent et apportent tous les éléments pour que ça puisse se développer de façon harmonieuse.
Marie nous dit, quand mon fils était bébé, je lui ai chanté une chanson en anglais. Il a pleuré, ne comprenait pas ce que je disais. À quel âge faudrait-il commencer à parler dans une autre langue à son enfant? D'abord, est-ce qu'il a pleuré parce qu'elle chantait en anglais?
Ou est-ce qu'elle chantait mal?
C'est ça.
Exactement.
Marie, excusez-nous.
Ce qui était mon cas. Mes enfants m'ont dit, arrête.
Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question,
chanter.
Voilà. Mais dans, alors, le bénéfice du doute, voilà, on ne sait pas.
C'est ça. Et puis en plus, ça dépend si c'est sa langue maternelle. Après, pourquoi l'enfant il a pleuré, ça c'est une question. Mais à quel moment? Je veux dire, un moment où on considère que c'est important de lui transmettre quelque chose et on sent, on a l'idée. J'ai écouté le témoignage d'une une mère russe qui a donc appris le français, qui vit en France depuis 20 ans, elle parle français. Et donc, quand le premier enfant est arrivé, elle voulait continuer à parler le français. Et elle a dit, à la naissance, je ne pouvais pas prononcer un mot de français. C'est le russe qui est arrivé, mais spontanément. Et finalement, comme son mari aussi parlait le russe, donc ils ont commencé à utiliser les deux langues et de parler avec sa fille en russe.
Eh bien, une autre Marie nous dit, mon fils parlait italien de 3 à 6 ans, en plus du français, sa langue maternelle. Et puis, nous sommes rentrés en France, il a oublié l'italien. A-t-il vraiment oublié cette langue?
Alors ça, c'est la grande question et pour laquelle on a des réponses aussi de témoignages comme ça, où effectivement les enfants oublient la langue parce qu'ils n'ont pas pratiqué, parce que le contexte ne permettait pas. Alors est-ce qu'il a vraiment... Donc il y a des études qui montrent qu'effectivement, même au niveau des traces à l'imagerie cérébrale, quelquefois, il n'y a plus de traces de la langue.
Ah, on a gommé. Le cerveau a gommé.
Effacé un peu. Ouais. Ou alors, peut-être qu'il y a des traces qui restent, que la technique encore ne permet pas de montrer. Donc, c'est une question tout à fait intéressante, surtout qu'elle est un peu en contradiction avec le fait que plus tôt on apprend quelque chose, mieux c'est.
Ouais.
Mais ça veut dire aussi qu'il faut vraiment, au niveau des langues, il faut l'entretenir, il faut que ça soit vraiment... maintenu dans le milieu en permanence.
Et le cerveau a cette capacité d'oubli des choses dont il n'a pas besoin aussi, alors visiblement. Hein.
C'est possible, parce que bon, il se réorganise, il a une plasticité qui va dans les deux sens. Donc si on stimule plus, certains circuits ne se développent pas.
Ouais. Françoise nous dit, étant polonaise, je parle dans cette langue à mon fils, cependant il ne me répond qu'en français, alors qu'il communique en polonais avec ma famille, justement en Pologne. Est-ce que je dois le laisser faire? Demande cette auditrice.
Moi, je pense que oui, tout en continuant de lui parler en polonais comme elle le fait, et le laisser aussi lui parler en français, peut-être aussi de temps en temps traduire ce qu'il dit, un peu stimuler pour qu'il peut-être éventuellement réponde quelquefois. Ouais. Mais s'il continue d'utiliser cette langue dans le contexte polonais, c'est bon.
Allez, on a un dernier sujet à vous faire entendre, justement, Ranka Bijel-Jacques, sur les inquiétudes liées au bilinguisme.
Le risque des enfants bilingues, c'est que si jamais... les bases dans une de leurs langues maternelles n'est pas stable, ça va se répercuter sur la deuxième langue maternelle automatiquement par des confusions phonétiques. On retrouve des mots en français à l'écrit, au niveau de l'écrit, de l'expression écrite. Il y a des mots en français, des fois ils essayent de franciser aussi les mots.
Même les enfants bilingues doivent avoir une langue forte parce que sinon ils deviennent semi-lingues et n'en maîtrisent aucune parfaitement.
Les études prouvent que souvent, même des enfants bilingues de naissance, entre guillemets, ont toujours une langue plus forte sur laquelle effectivement ils peuvent s'appuyer, et que si on n'a pas cette langue forte, ça devient beaucoup plus compliqué pour faire les apprentissages, puisque au lieu de se servir d'une langue sur l'autre, on va plutôt mélanger une langue avec l'autre, et c'est ce qu'on veut éviter à tout prix, quoi.
Ranka Bijel-Jacques, alors, sur ces inquiétudes, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit là dans le sujet?
En partie, parce que c'est vrai, mélanger les langues, c'est pas idéal, mais c'est pas du tout un passage définitif. C'est un passage, c'est pas une compétence que l'enfant va garder tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, on voit très bien les adultes quand ils parlent avec les monolingues, qu'ils soient bilingues, ils mélangent pas les langues. Je vais pas parler avec vous en introduisant des mots sébocroates. Donc, on arrive tout à fait à partager. Alors, ensuite, à l'écrit, c'est vrai que...
Le passage à l'écrit a
un tas de cas de figure, évidemment. Et si c'est toujours mieux d'apprendre à écrire dans la langue dominante, dans la langue où l'enfant il est très fort. Mais ce n'est pas toujours le cas, et ce n'est pas le cas justement des enfants qui viennent d'ailleurs et qui rentrent à l'école, par exemple en France, ils vont apprendre dans la seconde langue, dans la langue plus faible. Et c'est là où l'effort de l'école doit être important pour les mettre à niveau, pour leur permettre aussi de transférer leurs compétences qu'ils ont déjà dans la langue d'origine, dans la seconde langue. Ça veut dire tout ce qui est aussi passage de l'oral au graphème, tout ce qui est aussi le sens de l'écriture, tout ce qui est donc les compétences un peu métaphonologiques, métalinguistiques que tous les enfants développent au moment de passage à l'écrit.
Ouais.
Donc c'est un effort quand même, mais qui n'est pas du tout inutile et qui finalement les enfants arrivent très rapidement à rattraper.
Alors sur les avantages très nets aujourd'hui, confirmés par les études scientifiques, on parlait des maladies neurodégénératives.
Oh, ça c'est chez les adultes, troisième, quatrième âge.
Ça veut dire quoi? Que maîtriser deux langues permettrait de repousser...
En moyenne, avec les populations qui étaient étudiées, on a montré que quand on peut repousser l'apparition des maladies neurodégénératives de 4 ou 5 ans. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. Alors, c'est lié au bilinguisme, c'est peut-être lié aussi à d'autres activités intellectuelles qu'on n'a peut-être pas suffisamment étudiées, mais c'est toujours un avantage.
À cause, enfin, grâce à la stimulation du cerveau, toujours le même
avec
principe.
Oui, c'est ça. Enfin, à ma connaissance, on ne connaît pas les détails, mais on sait que ça arrive et en moyenne, ça se produit de cette façon-là.
Sur l'attention, sur la concentration, là aussi, il y a des études qui montrent que le bilinguisme est un avantage.
C'est un avantage parce que finalement, de fait, quand on doit toujours passer d'une langue à l'autre, l'enfant finalement spontanément développe des capacités d'inhiber certaines compétences et puis enfin activer d'autres et puis aussi d'être attentif à des changements de l'environnement qui ne sont pas seulement d'ordre linguistique, mais aussi tout ce qui se passe dans l'environnement. Ils ont plus tendance à être sensibles et de faire attention.
Flexibilité mentale, ouverture d'esprit, bah décidément, hein. On va vite apprendre des langues en plus, là, non?
Bah écoutez, je pense que oui, que de toute façon, c'est toujours éjouissif, intéressant, pas toujours facile, ça dépend de l'âge, et pas toujours bien accepté, comme on l'a vu, quand on est locuteur de certaines langues mineures, ou quand on a un accent fort, on n'est pas toujours très bien vu, mais c'est quand même au niveau personnel, et puis aussi sociétal, c'est quand même un avantage. Et il faut motiver les gens et les soutenir quand ils se lancent dans cette aventure.
Rêver dans une langue étrangère, demande Fabien, est-ce que c'est réellement un indice de bilinguisme?
Grande question, je n'ai pas de réponse, parce que je pense en tant que bilingue, je sais de temps en temps que j'ai rêvé que le texte était dans une autre langue, mais
c'est
finalement
vrai.
On ne sait pas. Ouais. Est-ce qu'on sait dans quelle langue, est-ce qu'il y a le texte, enfin, le parler dans le rêve?
Ranka Bijeljak Babik, ce livre, L'enfant bilingue de la petite enfance à l'école, vient de paraître et c'est l'un des très rares ouvrages en français hein, sur la question. Ça manquait beaucoup et vous comblez ce manque aux éditions Odile Jacob.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, vous nous parlez encore du cancer de la prostate.
Bah oui, mais écoutez, c'est la première fois depuis la rentrée quand même.
Bon, d'accord, je vous l'accorde. Et alors, quoi de neuf, docteur?
Bah, je pensais vraiment qu'il n'y aurait plus d'études publiées sur le très contesté dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA dans le sang. On dispose de publications portant sur des centaines de milliers d'hommes qui concluent à un bénéfice nul ou trop modeste sur la mortalité pour justifier la gravité des conséquences d'une ablation de la prostate ou d'une radiothérapie chez des milliers d'hommes tous les ans. Cela n'empêche tout de même pas les urologues de continuer à prôner ce dépistage dans les médias à leurs patients. Or, une nouvelle publication conforte les détracteurs du dosage des PSA.
Et en quoi est-elle remarquable?
Eh bien, par son ampleur. 400 000 hommes suivis pendant 10 ans, dont la moitié tirés au sort, ont été incités à pratiquer un dosage du PSA. C'est l'effectif le plus important jamais suivi. Alors, ça se passe au Royaume-Uni au début des années 2000, où ce dépistage n'est pas recommandé et très peu pratiqué. Le protocole de l'étude prévoyait des biopsies de la prostate en cas de PSA supérieur à 3 nanogrammes par millilitre, et si un cancer était découvert dans ces biopsies, eh ben, il était traité par chirurgie, rayon ou surveillance.
Et alors, du coup?
Eh bien, le résultat... Le résultat obtenu est conforme à la majorité des autres études, aucun bénéfice sur la mortalité par cancer de la prostate. Après 10 ans de suivi, les hommes incités à doser leur PSA sont morts de ce cancer dans les mêmes proportions que ceux qui n'y étaient pas incités. Ça veut donc dire que si un impact favorable du dépistage par PSA existe, vraiment, il est tellement faible qu'on n'arrive pas à le mettre en évidence malgré des études réalisées sur des effectifs colossaux. En revanche, il y a d'autres choses dont on est certain.
Et quoi donc alors?
Eh bien, dans le groupe qui a réalisé le dépistage, on a constaté deux fois plus de cancers de la prostate que dans le groupe contrôle. Cela signifie qu'un cancer sur deux diagnostiqué grâce à un dosage de PSA n'aurait jamais fait parler de lui.
Comment ça?
Eh bien, si après 10 ans de suivi, vous comptabilisez deux fois plus de cancers chez les gens qui font un dépistage que ceux qui ne le font pas, où les cancers sont révélés par des symptômes, ça veut dire que votre dépistage trouve deux fois trop de cancers. Ça s'explique par le fait que beaucoup de ces cancers localisés disparaissent tout seuls ou n'évoluent pas et qu'on les a donc détectés à tort. Rien de surprenant, c'est un phénomène bien connu, mais il y a pire.
Allons bon, et quoi donc alors?
Le taux de suicide. Une autre étude montre que la découverte d'un cancer de la prostate multiplie par 5 le risque de suicide. Alors, il faut dire que vivre avec une impuissance ou une incontinence due à l'opération n'améliore pas la joie de vivre.
Bon, c'est pas emballant du tout quand même tout ça.
Non, absolument. Et c'est bien pourquoi ce dépistage n'est ni organisé ni recommandé par l'Institut National du Cancer, ni par la Haute Autorité de Santé.
Et vous vouliez nous le rappeler aujourd'hui.
Exactement, avec l'actualité.
Merci beaucoup Dominique, à la semaine prochaine.
À jeudi.
Merci à Étienne Bertin qui réalisait cette émission. Patrick Henry était à la technique. Et puis dans un instant, bien sûr, vous retrouverez comme tous les jours à 15h les affaires sensibles de Fabrice Drouel. Bonne journée à tous et à demain avec La Tête au Carré.